Vous êtes sur RTL.
RTL 12h30.
RTL.
Édition spéciale avec Vincent Parisot.
Merci à eux.
Merci à eux.
Oui, merci à eux. C'est une édition spéciale d'RTL Midi en ce samedi 21 mars. Pour les remercier, leur dire tout notre attachement et surtout les écouter. Le 3210 vous est donc ouvert dès maintenant. Eux, ce sont les personnels de santé qui, depuis le début de l'épidémie, sont en première ligne. Dans les hôpitaux, bien sûr, mais aussi dans les cabinets médicaux, les EHPAD, dans les pharmacies ou même chez nous pour les infirmières à domicile, par exemple. Nous en sommes au 5e jour de confinement seulement. Et si les applaudissements résonnent dans nos rues tous les soirs à 20h, comme vous l'avez entendu dans cette présentation, et cela depuis mardi, c'est bien évidemment pour témoigner toute notre gratitude à l'ensemble des soignants particulièrement exposés sur le terrain de jour comme de nuit. C'est le cas par exemple d'Amandine qui est infirmière en réanimation à Paris.
J'ai pu les entendre pour la première fois du coup hier soir. C'est quelque chose qui est très 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 émouvant. Le fait de la fatigue, de la situation, on est encore plus émotif en ce moment, on est encore plus sensible. Et alors ces applaudissements, franchement, c'est pas grand-chose, mais on les remercie.
Et c'est bien le minimum qu'on puisse faire, tout comme de rester à la maison, évidemment, pour eux et pour nous. C'est aussi pour cela qu'on va passer cette heure avec eux sur RTL, tous les personnels de santé, pour les remercier. Au 3210, n'hésitez pas à les encourager, mais aussi les écouter, car j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et à nous demander. J'en profite d'ailleurs pour relayer les appels aux dons. Ils sont nombreux. Par exemple, la Fondation de France, qui précise que les dons recueillis sur fondationdefrance.org et également par courrier iront en priorité aux besoins des soignants avec l'achat de matériel médical pour augmenter les capacités d'accueil à travers la France et la mise en place aussi d'aides psychologiques pour les soignants. Merci à eux. C'est donc parti jusqu'à 13h30 pour exprimer votre gratitude, vos encouragements, vos remerciements au 3210. Et si vous-même, médecin, infirmier, aide-soignant, pompier, brancardier, vous souhaitez intervenir, n'hésitez surtout pas. 3210 également. On va écouter tout le monde, mais on va commencer par quelqu'un qui non seulement est sur le terrain, mais également, j'ai envie de dire, au cœur du réacteur, à la tête du service de pneumologie et des soins intensifs respiratoires de l'hôpital Pasteur de Nice. Bonjour professeur Marquette.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct sur RTL. Dites-nous tout d'abord, quelle est votre situation à l'hôpital Pasteur de Nice et plus globalement dans la région PACA ?
Nous sommes particulièrement organisés, toutes les équipes sont mobilisées, nos capacités d'accueil ne sont pas encore saturées, mais nous sommes en position d'accueillir les patients qui vont arriver.
Et vous montez de nouvelles unités actuellement pour accueillir les futurs malades ?
Oui, tout à fait. Les unités de médecine et de réanimation sont armées les unes après les autres pour ne pas être pris de court dans les jours et semaines qui viennent.
J'imagine que c'est un énorme travail que cette réorganisation, pas seulement d'ailleurs en déprogrammant des interventions non urgentes, mais c'est tout le système qu'il faut revoir.
C'est tout le système qu'il faut revoir, mais tous les personnels hospitaliers sont engagés. Et c'est très impressionnant de voir l'engagement majeur de toutes les équipes.
Justement, parlez-nous de vos équipes, du personnel soignant de l'hôpital. Comment vont-ils et j'ai envie de dire aussi psychologiquement, on sait qu'ils ont aussi besoin d'un soutien de ce côté-là.
Eh bien, écoutez, je travaille depuis 40 ans dans l'hôpital et je suis très impressionné et très admiratif. Vous n'imaginez pas l'énergie, le courage, l'inventivité face au manque de matériel et la solidarité de tous, les aides-soignants, les infirmiers, les infirmières, les ASH, les cadres soignants et les administratifs.
C'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, pour les encourager évidemment et surtout pour les remercier parce que, et là j'imagine que vous partagez cette opinion, professeur Marquette, on n'en est qu'au tout début.
On en est au tout début et je me permets d'insister, puisque c'est une diffusion nationale, sur l'importance des mesures de confinement. Il faut en faire plus.
Quand vous dites il faut en faire plus, par exemple, vous êtes à Nice, hein, je le rappelle, oui. Où le couvre-feu a été décrété par le maire. Est-ce que c'est une bonne mesure ?
Écoutez, restons simples. Nos camarades qui sont juste de l'autre côté de la frontière sont confrontés à l'horreur pour un soignant, c'est-à-dire faire le tri toutes les heures entre ceux qu'on va tenter de sauver et ceux qu'on va accompagner vers la mort. Si on fait rien là maintenant, l'Italie aujourd'hui, ce sera la France dans 10 jours. Et donc, la décision de couvre-feu prise par M. Estrosi est une décision courageuse qui était nécessaire.
Mais vous pensez qu'elle doit être prise à un niveau plus large et peut-être au niveau national ?
Je n'ai pas l'autorité pour le décider, mais les épidémiologistes poussent en faveur de mesures plus importantes encore.
Et plus globalement, est-ce que vous trouvez que les messages alors, du gouvernement, des autorités de santé sur le confinement sont suffisamment clairs ?
Alors là, c'est un problème dans toute situation de crise, la clarté des messages, mais dire « on reste à la maison, sauf si on ne peut pas faire de télétravail », ça explique pourquoi sur la route de l'hôpital, le matin et le soir, je vois un monde fou. Ce type de message, ça entraîne la confusion dans les esprits. Le vrai message devrait être « on reste à la maison, point barre ».
C'est-à-dire pas d'exception ?
Pas d'exception.
Évidemment, ce message que vous lancez sur l'antenne d'RTL, on le prend au premier degré. Moi, ce que je voudrais aussi, professeur, c'est vous renvoyer tous les messages qui nous parviennent actuellement au 3210. Je voudrais juste qu'on écoute Patrick qui nous appelle de l'Orne. Il est à Alençon. Bonjour Patrick.
Bonjour. Écoutez, merci de m'avoir retenu. Je tenais à saluer, comme des millions de Français, je pense, toutes nos blouses blanches qui prennent soin de nous et du corps médical en général.
Vous en connaissez vous-même dans votre entourage, Patrick ?
J'en ai 3 dans la famille et je voulais saluer Adeline, Claudine et Noémie.
Qui sont infirmières.
Infirmières.
Elles vous parlent de leur situation, Patrick ?
Ah oui, tout à fait, absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, elles ne sont pas avares de leur temps pour... occuper les journées bien remplies à l'hôpital.
Merci en tout cas, Patrick, de cet appel et de cet encouragement lancé à tous les personnels de santé. Merci aussi au professeur Charles-Hugo Marquette qui est intervenu. Je vous laisse évidemment parce que on imagine bien que le temps vous est compté. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'RTL. Patrick évoquait le rôle primordial des infirmières, tout comme le faisait le professeur Marquette. Une infirmière, on en a une en ligne, une infirmière libérale de Strasbourg. C'est Sylvia qui était avec nous au 3210. Bonjour Sylvia.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Parlez-nous aujourd'hui de la situation et de votre situation dans une région qui, on le sait, est particulièrement impactée. Je parle de l'Alsace, évidemment, de Strasbourg. Comment ça se passe ?
Alors, nous, on est surtout confrontés aux problèmes... des masques, la récupération des masques. On a eu beaucoup, beaucoup de mal à en avoir. Les pharmacies nous les délivrent au compte-gouttes. On appelle tous les jours. Là, ce matin, j'ai recensé, on en a 50 pour la semaine prochaine qui va venir.
Oui.
Ça suffira tout juste parce que nous sommes une petite équipe de 4. On est 3 sur le terrain, 1 au repos. Donc, il nous en faut 5 par jour.
Vous avez besoin de 5 masques par jour pour vous seul ?
Non, 5 masques, c'est-à-dire qu'on en prend 2 chaque matin chacun, donc on est 2 avec 2 masques, un minimum de minimum, et l'après-midi 1, c'est parce qu'il faut absolument qu'on arrive à tenir, et on n'est pas du tout sûr d'être réapprovisionné vu les problèmes qu'ont les pharmacies eux-mêmes.
Et concrètement, justement, qu'est-ce que ça implique si vous n'avez pas ces masques ?
Eh ben, on se met en danger et on met en danger nos patients. Mais on se met en danger, nous, d'abord.
Vous l'avez fait ou pour l'instant, vous avez toujours pu bénéficier de masques ?
Pour l'instant, on travaille surtout avec des petites réserves qu'on avait, nous.
Oui.
On a eu des masques spéciaux. Et ceux-là, on va les garder pour les retours des patients de l'hôpital. Parce qu'on a été sollicité à 2 reprises par la Sécu. Pour voir si on est capable mais notre capacité à reprendre en charge les retours. Et on a bien insisté sur le fait qu'il nous faut absolument du matériel de protection dans le genre surblouse, lunettes, masques en quantité suffisante. Mais pour l'instant, si j'ai bien compris, même les hôpitaux ont du mal à s'approvisionner en surblouse. Donc pour le domicile, ça va être très 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 compliqué.
Concrètement, dans la vie courante, comment ça se passe, Sylvia? C'est-à-dire que est-ce que vous travaillez plus actuellement?
Oui, on travaille plus. On est beaucoup plus sollicité par nos patients chroniques parce qu'ils ont besoin d'explications. Ils ne comprennent pas. On a une tournée pluriculturelle en fait. Oui. Et donc dans certaines familles, les personnes âgées sont très entourées, ils comprennent pas du tout qu'ils doivent rester à l'isolement.
Et ça, vous essayez de faire passer ce message justement quand vous rentrez dans un appartement, vous voyez.
Vous savez, quand vous entrez dans un appartement masqué du jour au lendemain, ça a été difficile parce que les patients n'ont pas compris. N'ont pas compris après les élections qui étaient ouvertes à tout le monde et même incitées à tout le monde que du jour au lendemain on arrive masqué.
Comment vous vivez ces remerciements que vous adressent les Français? On va les entendre au 32-10.
Ça nous fait chaud au cœur.
Ouais. Quand vous entendez les gens applaudir à 20h le soir.
Les voisins applaudissent tous les soirs à 20h, ça me touche beaucoup, ça m'émeut.
Non. Évidemment, on va continuer et c'est le moins que l'on puisse faire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire également? Quel est le message que vous souhaiteriez aujourd'hui faire passer à ceux qui nous écoutent,
Sylvia? Qu'il faut qu'on reste tous solidaires, que c'est un maître mot entre nous, entre infirmiers, médecins et collègues. Et j'en appelle aussi surtout au sens civique de nos concitoyens, ne nous fracturez pas nos voitures, nous aurons sur nous uniquement le matériel de journée. C'est pas la peine d'essayer.
Là, vous faites référence à des vols de masques ou de gel.
Oui, on a eu des collègues qui ont eu des voitures fracturées, et ça c'est inadmissible. On n'a pas encore le temps de s'occuper d'aller faire réparer nos voitures, quoi.
J'imagine bien, Sylvia, et le risque terrible, c'est qu'effectivement, parmi tous ces personnels de santé, un certain nombre d'entre eux contractent la maladie, ce qui est évidemment terrible, tout d'abord parce qu'ils manqueront à l'appel et ensuite parce qu'ils vont la transmettre aussi. Oui, c'est ça, Sylvia?
Oui, non, ce que je voulais juste expliquer, c'est qu'on a essayé aussi de défaire le soin, de le réfléchir pour faire un sas de sécurité en rentrant chez nous, pour se déshabiller dans la buanderie quand c'est possible et de se changer, de décomposer le soin. C'est ça ce que je voulais dire, de bien le réfléchir pour utiliser à bon escient les gants, le gel et se protéger nous-mêmes et protéger nos patients.
Merci en tout cas de ce témoignage, Sylvia, infirmière libérale à Strasbourg. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite énormément de courage. Je voudrais qu'on évoquait à l'instant le risque pour tous ces personnels soignants d'être malades, faute de masque, faute de protection suffisante, faute de gel. Alors je voudrais qu'on écoute Brigitte. Brigitte qui est pharmacienne à Lons-le-Saunier dans le Jura. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous n'êtes pas dans votre officine ce matin?
Non, je ne travaille pas en ce moment, non.
Pourquoi?
Eh bien, j'ai présenté les symptômes du Covid, hein, donc je suis en isolement pendant 15 jours. Et je pense que les personnes au sein de la pharmacie ne respectent pas forcément les mesures de protection, à savoir, on travaille avec des masques, donc les gens s'approchent parce qu'ils ne nous entendent pas. Plusieurs fois par jour, un client sur deux, nous sommes obligés de dire « reculez-vous s'il vous plaît ».
Il faut s'énerver un petit peu parfois pour faire respecter ces consignes.
C'est très éprouvant, c'est très dur. Les gens nous voient avec les masques, hein, ils rentrent. Nous avons mis un panneau sur la porte de l'officine, 3 personnes maximum, mais dès que vous ouvrez le rideau, les gens rentrent par 10 parce qu'ils veulent être servis tout de suite. Les gens sont pressés. Nous n'avons plus de gel ni de masque depuis plusieurs semaines, mais ça, ils ne comprennent pas. Alors on entend tout, hein. Mais moi je suis client, vous auriez dû m'en garder. frapper. Enfin, on a des clients qui sont très agressifs. Et puis, ils ne respectent pas forcément les mesures de prévention, en fait. Hein.
Donc, avec, évidemment, le risque, et ça, est-ce que c'est possible de l'expliquer? Le risque, c'est que, dans quelques jours, votre officine doit fermer si d'autres personnes tombent malades.
Alors, nous avons un SAS, hein, nous avons une porte par laquelle nous récupérons les ordonnances pour les gardes. Mmh. Donc, si effectivement la situation se complique, nous en sommes venus à nous poser la question de savoir si nous n'allions pas récupérer les ordonnances via cette trappe, quoi. Donc, pour l'instant, mes collègues ne sont pas malades, mais voilà, on est tous dans l'incertitude, hein. Pour l'instant, la situation reste très, très, très compliquée, c'est vrai.
Merci Brigitte, on vous souhaite évidemment énormément de courage, puisque vous nous avez expliqué que vous avez été donc testé positif au Covid-19, que vous présentez les signes de la maladie, que vous êtes confiné chez vous, et vous nous parliez de ce quotidien au sein de votre officine, de votre pharmacie, avec des clients qui parfois oublient les mesures simples de base, à savoir de respecter au moins une distance d'un mètre avec les autres personnes. Moi aussi, je vous dis merci. Je me fais le porte-parole de tous les auditeurs d'RTL. Merci à tous les pharmaciens, à toutes les pharmaciennes et à tous ceux qui se travaillent dans les pharmacies, dans les officines, des préparateurs et tous les autres, ceux qui livrent également, évidemment, les pharmacies. Merci Brigitte de votre appel. On va marquer une très courte pause dans cette édition spéciale. Merci à eux. Et puis vous retrouvez dans un instant avec Rachida, qui est infirmière hospitalière, avec Marie aussi, qui a fait le 32-10, qui était soignante auxiliaire de vie. À tout de suite. Merci à eux.
RTL.
Édition spéciale avec Vincent Parisot.
Merci à eux.
Tous les jours.
RTL. Édition spéciale avec Vincent Parisot.
Merci à eux, merci à tous ces personnels de santé. On est ensemble jusqu'à 13h30 pour les remercier, leur dire tout notre attachement à leur travail, à l'hôpital, évidemment, et puis surtout pour les écouter. On va prendre en ligne dans un instant Rachida, qui est infirmière, mais je voudrais tout d'abord donner la parole à Marie, qui nous appelle de Metz. On a évidemment beaucoup d'appels et beaucoup de témoignages du Grand Est, particulièrement touché par le virus, notamment l'Alsace. Vous êtes à Metz, Marie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes aide-soignante, auxiliaire de vie, c'est ça?
Oui, je suis auxiliaire de vie, donc pas en structure, parce que j'ai fait beaucoup de structures et d'hôpitaux. Donc, au domicile avec des infirmières, donc auprès des personnes handicapées, donc que ce soit personnes âgées ou dans la cinquantaine. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très difficile, parce qu'on est en manque de masques, de gel et tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est à tout le nom de mon équipe, puisque je suis établie par l'ORAPA de Voipy, qui est un organisme où ils emploient des personnes à domicile avec des infirmières, où je leur souhaite, s'ils ont eu une réunion de bureau hier, on a eu une réunion de bureau, donc s'ils m'entendent, je peux donner le nom des
Non, je pense qu'ils ont compris, malheureusement, ça va être un petit peu long, mais qu'est-ce que vous vouliez leur dire, surtout courage.
Moi, leur dire, de faire preuve de courage, qu'on est solidaire, et de ne pas se laisser abattre aux problèmes qu'il y a, et je pense qu'en étant solidaire, on arrivera à vaincre le problème. Oui. C'est vrai que c'est tout un travail, on est tous et toutes très fatiguées, mais je pense qu'on y arrivera. Et la seule chose, la force, c'est de se soutenir et ne pas craquer. Mmh. On pourra craquer quand ça sera fini, mais pas maintenant.
Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais. Et c'est le message qu'on va faire passer, Marie. J'imagine que Rachida l'a entendu, ce message. Bonjour Rachida.
Bonjour Vincent.
Vous êtes infirmière à l'hôpital, hein, à Créteil, oui. C'est ça?
Oui, dans les environs de Créteil. Oui. En fait, moi, je suis infirmière anesthésiste.
Oui.
Et donc, en fait, toutes nos plannings ont été modifiés. Donc, depuis quelques jours, on est amené à faire des journées de 12 heures en réanimation. On est deux par jour et on a fait aussi une équipe de tri d'échocage. Donc on accueille des patients qui sont en détresse respiratoire, qui sont amenés par le SAMU. Et ils sont immédiatement pris en charge. Alors après, ce qui est un petit peu aussi difficile, c'est, vous savez, Vincent, c'est l'habillage. Il faut s'habiller pour prendre en charge ses patients.
Oui, bien sûr.
Et on reste dans la chambre parfois 2 heures habillés à faire les soins. Et c'est très lourd parce que en plus nos horaires ont changé et on est obligé de se remettre à faire de la réanimation. On est sans arrêt modifié dans tous les services.
Votre quotidien a été complètement bouleversé.
Oui, toute l'équipe, notre planning change du jour au lendemain. Bon, on est toutes heureuses et contentes de faire tout ça. Et en fait, aussi, ce qu'il y a, c'est comme disaient mes collègues auparavant, c'est le problème des masques. Donc, le matin, quand on arrive, on nous donne un masque chirurgical si on est au bloc. Mmh. Et après, on a des masques FFP2 qu'on ne doit pas retirer si on est auprès de patients Covid. Et même au bloc, on est obligé de les mettre.
Vous évaluez le nombre de masques dont vous auriez besoin immédiatement
ce qu'il y a, c'est que si on est au bloc avec des masques FFP2 et que, par exemple, vers 13h, on se dit on va aller faire pipi ou on va manger, le masque, il faut le retirer. Hein, puisqu'après, une fois qu'on l'a retiré et touché, il n'est plus valable. Hein.
Oui, c'est ça. Après, il est bon à acheter. Restez avec nous parce qu'évidemment, Rachida, votre témoignage en tant qu'infirmière à l'hôpital dans un service de réanimation est très important, mais je voudrais qu'on écoute et peut-être vous allez pouvoir dialoguer d'ailleurs Bénédicte qui est à Chartres, qui est infirmière aussi. Bénédicte, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, moi je suis infirmière, mais j'avais une question à poser. Moi je suis infirmière sur une équipe mobile de soins palliatifs. Mais j'ai ma fille qui est infirmière scolaire.
Oui.
Et elle tourne en rond dans son 35 mètres carrés dans l'Orne. Et elle dit, mais moi, je voudrais qu'on m'appelle. Je voudrais aller faire donner des coups de main, ne serait-ce que dans des EHPAD.
Elle n'est pas sollicitée. On lui a pour l'instant rien demandé.
Elle a demandé à des responsables comment pouvoir... je pense que dans l'Orne, pour l'instant... C'est calme.
C'est calme, oui, sans doute.
Elle tourne et elle dit, peut-être qu'ils vont m'appeler plus tard, mais elle n'a pas moyen, en tout cas de ce qu'elle m'a dit jusqu'à hier, elle n'a pas le moyen, elle n'a pas trouvé le moyen de s'inscrire quelque part pour pouvoir aller donner un coup de main là où il y a besoin.
Voilà, moi, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Ce que je veux dire, c'est aussi rassurant de savoir qu'il y a en France, sans doute aujourd'hui encore, des milliers de personnes qui sont prêtes à aider et à donner un coup de main avec leur capacité. Là, vous parlez de votre fille qui est infirmière et j'imagine que ça doit faire chaud au cœur aussi de Rachida. Mais vous vouliez évoquer la question des masques aussi. Alors ça, c'est une question qui revient depuis le premier auditeur à 12h30. Bénédicte, oui.
J'avais une autre question parce que dans les infirmeries scolaires, il y a des masques.
D'accord.
On leur a demandé de les répertorier.
Oui. Vous voulez dire que
on en fait quoi? Voilà la question.
Dans l'établissement scolaire de votre fille, qui est donc élève infirmière, il y a des masques.
Non, elle est infirmière scolaire.
Infirmière scolaire, excusez-moi. Oui. Dans l'établissement scolaire, il y a des masques. Dans les lycées, il y a des masques. C'est ce que vous voulez nous dire?
Oui.
Et il y en a
oui,
beaucoup.
Il y en a. C'est pas qu'il y en a beaucoup de grosses quantités, mais le petit, ne serait-ce que pour équiper, ne serait-ce que les auxiliaires de vie qui interviennent auprès des personnes âgées qui n'ont rien. Enfin, voilà, moi j'ai ma belle-mère qui a des auxiliaires de vie qui viennent 2 fois par jour. Elles n'ont pas d'équipement, quoi. La question c'est ça, c'est comment faire. Il y a peut-être des petites quantités, mais on sait bien que les petits ruisseaux sont des grandes rivières. Ça pourrait apporter une sécurité pour les intervenants.
Rachida, on vous a promis des masques dans les prochaines heures, dans les prochains jours, des masques en quantité.
Ça devrait arriver avec le chat. Mais par contre, Vincent, moi, il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que par rapport, tout le monde nous applaudit, vive les infirmières, après les attentats, c'était pareil, mais le gouvernement a parlé d'une prime. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les infirmières, aussi, il ne faut pas oublier, hein, parce qu'après, peut-être que tout ça se sera oublié. On demande aussi une rémunération correcte, hein, Vincent. Et pas de prime. Pas une prime, là, occasionnelle. Mmh. Il faut revaloriser nos salaires pour qu'on puisse embaucher des infirmières et que le poste d'infirmière soit attractif aussi, Vincent.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Alors, je pense que vous avez entendu Emmanuel Macron dire qu'il y aura un avant et un après, c'est certain. Pour l'hôpital public, il y aura sans doute un avant et un après. Enfin, c'est ce qu'on espère. C'est pas l'heure, sans doute, de, de faire ce genre de compte. Il est sans doute trop tôt, mais c'est évidemment quelque chose, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde souhaite, Rachida.
Oui, et ce que je voulais aussi redire, Vincent, si vous pouvez, si je me permets,
bien sûr, allez-y.
C'est que quand on sort pour aller travailler, comme disait l'interlocuteur précédent, les gens continuent à faire leurs petites courses tranquilles, leur jogging, et comprennent pas. Parce que pour eux, c'est abstrait ce qui se passe, le coronavirus. Ils voient pas les dégâts.
Et vous, vous le voyez. Et vous, vous le voyez dans votre service.
Mais Vincent, mais même moi, l'autre nuit, pourtant, ça fait longtemps que je suis infirmière anesthésiste, j'ai été quand même assez marquée de recevoir des jeunes comme ça qu'on prend en charge. C'est terrible, Vincent. Je vous assure, c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte de ce que peut provoquer le coronavirus. C'est abstrait, ils ne voient pas ce qui se passe dans les réanimations et ce que font tous les jours les personnels soignants. Et on prend des risques aussi, Vincent. On essaye de faire bien, on s'habille, le déshabillage, l'habillage. Voilà, on essaye de suivre toutes les recommandations, mais voilà, des fois, ça peut ne pas être facile pour nous. Parce que... Vraiment,
on a bien conscience que ce n'est pas facile. On vous remercie du fond du cœur, vous-même, Rachida, et tous ceux qui travaillent à vos côtés dans cet hôpital de Seine-et-Marne, tous ceux qui travaillent dans les pharmacies, qui travaillent à domicile. Cette émission, elle est destinée à vous dire merci. Donc, franchement, on vous dit merci du fond du cœur. On vous dit surtout courage, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir être patient et qu'il va falloir être fort. Merci beaucoup, en tout cas, Rachida, de votre appel. On va penser et parler d'une autre catégorie. Ce sont les techniciens de laboratoire. Marie-Christine nous appelle. Vous êtes à l'hôpital Necker, c'est ça ? Bonjour, Marie-Christine.
Oui, bonjour, Vincent. Oui, je suis à l'hôpital Necker. Ça fait plus de 40 ans que j'y travaille, pour dire que je suis passionnée par mon métier. Et moi, je prêche surtout pour mes collègues et amis qui sont techniciens de laboratoire en virologie. Parce que une question fondamentale, quand tout un chacun va se faire prélever dans un laboratoire, que deviennent ces prélèvements ? Que deviennent les prélèvements, notamment du coronavirus ? Personne n'en parle, personne ne parle de notre profession.
Et vous pouvez nous éclairer d'ailleurs, parce que c'est une question auquel je n'avais pas pensé, mais effectivement...
Ben oui, personne n'y pense.
Et comment ça se passe concrètement ?
Ben concrètement, je ne peux pas vous dire exactement en virologie, parce que moi je travaille en immunologie, avec des maladies auto-immunes, des maladies qui sont méchantes aussi. Et notamment, ben, on a des prélèvements qui ont été faits sur des patients dont on a détecté le coronavirus a posteriori, mais nous on avait déjà reçu leurs prélèvements. Donc, mais je prêche pas pour moi particulièrement.
Bien sûr,
je
pour tous ces techniciens de laboratoire qui sont, alors là, pour le coup, totalement en première ligne, puisqu'ils effectuent les tests.
Mais tout à fait. Et ça, personne n'en parle. À la télé, vous voyez des images. Rachida parlait très justement d'il faut s'habiller, se confiner, etc. Enfin, s'habiller spécialement. Mais quand vous voyez à la télé les techniciens de labo qui sont habillés de pied en cap dans ces espèces de combinaisons et tout ça, ils font ça en continu. Ce ne sont pas des machines. Quand vous prélevez, vous avez un écouvillon au niveau du nez, etc., l'écouvillon va bien quelque part. Vous ne le mettez pas dans une machine et vous appuyez sur un bouton. Ce sont des personnes derrière qui s'en occupent.
Et c'est vrai qu'on ne pense pas a priori à eux. On pense beaucoup, effectivement, aux médecins, aux laboratoires. Est-ce qu'ils vous font part de leurs inquiétudes ? Est-ce que vous sentez du stress ?
Attendez, Vincent, on n'est pas invincible. Il y a des personnes qui sont contaminées partout, dans toutes les professions. On n'est pas à l'abri non plus, vous voyez ? On n'est pas à l'abri. Et quand on dit qu'on travaille dans un hôpital, la première chose qu'on vous demande, si vous êtes médecin, infirmière ou aide-soignante, c'est tout. Si vous avez une blouse blanche, vous faites forcément partie de ces trois catégories. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, tout le monde a des bilans sanguins à faire dans toute sa vie, là en l'occurrence en plus, et il faut vous poser la question, où vont vos prélèvements quand on vous les fait ? Et donc, nous, on manipule des tubes, des toutes sortes de prélèvements. Je ne vais pas entrer en détail, parce que là, on approche aussi du moment de déjeuner. Mais voilà, donc, vous voyez, donc, je prêche surtout, c'est un petit coup de gueule que je lance.
Mais vous avez bien fait de le faire, et c'est pour moi l'occasion, évidemment, puisque je les avais un petit peu oubliés dans ma présentation, de les remercier et faites-leur passer ce message. Merci à vous, tout d'abord, Marie-Christine, et puis merci à tous ces techniciens de labo qui, c'est vrai, sont en première ligne, qui effectuent les tests, qui sont particulièrement exposés. Merci à eux également. RTL, il est 13h.
RTL, édition spéciale avec Vincent Parisot.
Merci à eux.
Merci à eux, merci à tous ces personnels soignants, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, mobilisés d'un bout à l'autre de la chaîne. Merci de ne pas compter vos heures, merci d'oublier la fatigue, merci de vous protéger également pour nous protéger. Merci d'être ces combattants face au virus. C'est la raison pour laquelle... le soir, on vous applaudit à nos balcons. C'est évidemment le minimum du minimum qu'on puisse faire. Merci à vous tous. Merci par exemple à Marc-Antoine, qui est médecin anesthésiste réanimateur dans un hôpital parisien.
Globalement, on est extrêmement mobilisés, extrêmement concentrés. Tout le monde a mis sa vie personnelle totalement entre parenthèses et en parallèle en mettant sa famille un petit peu loin, en faisant garder les enfants de manière un peu prolongée pour pouvoir être concentré sur la tâche. On dit oui à toutes les augmentations de temps de travail, toutes les demandes de garde, les modifications de planning, dans le but d'être parfaitement efficace pour l'arrivée du pic épidémique dans quelques semaines. Parce que là, pour l'instant, on a juste l'impression d'être à l'apéritif d'un repas qui ne va pas forcément bien se passer.
Voilà, un témoignage de Marc-Antoine, médecin anesthésiste réanimateur dans un hôpital parisien. Et c'est pour lui, entre autres, et pour tous les soignants d'un bout à l'autre de la chaîne qu'on fait cette émission aujourd'hui jusqu'à 13h30 pour vous dire merci. Et merci à vous, docteur Schmitt, Yannick Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin généraliste dans une région qui est là aussi particulièrement éprouvée. L'Ingolsheim, c'est ça ?
Exactement, oui. C'est dans la banlieue de Strasbourg.
Quel est votre quotidien aujourd'hui, docteur ?
Un quotidien un peu bouleversé, puisqu'on a complètement modifié notre fonctionnement au sein du cabinet, puisqu'on fonctionne actuellement avec deux médecins, c'est-à-dire mon remplaçant et moi-même, pour absorber l'augmentation d'activité. On a développé aussi pas mal la téléconsultation et surtout, on est envahi par les appels téléphoniques, mais c'est bien normal, effectivement, de pouvoir faire face à des demandes de nos patients qui, du coup, sont confinés et, du coup, se déplacent moins au cabinet. C'est très bien comme ça.
Ça, c'est très important qu'ils se déplacent moins, parce que c'est des risques en moins de transmettre le virus, que ce soit dans la salle d'attente, dans les couloirs ou autre, j'imagine. C'est pour ça que la téléconsultation a aujourd'hui son importance, qu'on n'imaginait peut-être pas il y a quelques mois, lorsqu'il y avait un débat sur l'intérêt de la téléconsultation, d'ailleurs.
Oui, c'est sûr que ça a un intérêt dans notre prise en charge de notre patientèle. Je tempère un petit peu quand même l'intérêt de la téléconsultation, puisque ça a un intérêt quand on connaît ses patients et qu'on sait comment ils sont dans leur état de base et qu'on les voit ensuite en vidéo, parce que forcément on peut pas les examiner, on peut pas écouter un poumon. Et ça, c'est quand même très très important de pouvoir avoir un regard sur des patients qu'on connaît par rapport à du tout venant qu'on connaîtrait pas. Là, la téléconsultation est peut-être plus limitée dans ses capacités et dans la possibilité qu'on peut amener d'une prise en charge de qualité.
Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui au niveau hospitalier des patients qui, en tout cas pour certains d'entre eux, nécessitent une hospitalisation, que ce soit à Strasbourg, alors on pense évidemment à Mulhouse, il y a encore une capacité pour les accueillir?
Alors, je vais parler pour Strasbourg, puisque c'est là où j'adresse mes patients. Mais effectivement, on a toujours la possibilité d'envoyer nos patients à l'hôpital, et en l'occurrence sur la semaine écoulée, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais clairement pas pour des problèmes infectieux, mais pour tous les autres problèmes qui continuent à survenir malgré l'épidémie. Mais on s'attend effectivement à ce que la situation se tende quand même de façon très importante, puisque la déprogrammation des examens, des gestes opératoires qui était normalement prévu vont avoir des conséquences sur nos patients qui du coup vont peut-être décompenser plus leur pathologie parce que justement ils vont devoir attendre un examen, un geste technique qu'ils n'auront pas avant plusieurs mois.
J'imagine que votre quotidien de médecin a été complètement bouleversé, que vous ne comptez pas vos heures, que la fatigue commence à peser. Docteur Schmitt, est-ce que vous entendez les applaudissements le soir à 20h? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Oui, ça fait effectivement chaud au cœur et je crois que c'est quelque chose effectivement d'important pour les personnels soignants, mais au-delà pour toutes les personnes qui continuent à assurer des fonctions vitales dans notre société. Et effectivement, je pense qu'il faut penser à tous ces gens-là et aussi aux personnes hospitalisées qui nécessitent des soins lourds. Mais je voudrais rester sur une note d'optimisme parce que sur l'immense majorité des patients qu'on voit aujourd'hui avec des symptômes, on reste sur des formes qui sont relativement mineures, relativement bénignes. En tout cas, nous, en médecine générale, c'est ce qu'on constate. Et on a finalement assez peu de cas graves, voire pas du tout. Donc voilà, il faut aussi dire aux gens qui nous écoutent que voilà, des symptômes assez bénins, assez mineurs, comme un nez qui coule, peut-être quelques courbatures et mal à la gorge, ça peut déjà être une infection au Covid. C'est d'ailleurs certainement une infection au Covid. Et du coup, il faut redoubler de prudence sur les mesures de précaution et prendre contact avec son médecin traitant et surtout pas effectivement se présenter au cabinet médical parce que d'autres solutions existent et localement les professionnels de santé commencent à s'organiser pour justement créer des filières de prise en charge.
Merci beaucoup docteur Schmitt à l'Ingolsheim, merci d'être intervenu et puis merci pour tout ce que vous nous faites, pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de retrouver Guy François, qui est anesthésiste en réa, je voudrais donner la parole. Et là, on est dans une ville qui est particulièrement touchée. On est à Mulhouse. Je voudrais donner la parole à Rosalba, qui est infirmière retraitée. Bonjour, Rosalba.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
C'est une famille de soignants que vous avez, hein, Rosalba.
Tout à fait.
C'est-à-dire votre fille, son mari.
Voilà, ma fille est médecin. Elle est médecin à Belfort. Elle y va tous les jours. Mon mari est chirurgien dans une clinique à Mulhouse. Il va travailler tous les jours. Il fait partie aussi il est volontaire, donc fait partie d'un groupe de médecins volontaires qui s'occupe d'un service dédié. Si vous voulez, demain, il va passer sa journée dans un service dédié, justement, au niveau de sa clinique.
C'est-à-dire en première ligne, exposé directement.
Voilà. Tout à fait. Et mon mari, lui, dirige une clinique à Colmar. Donc,
comment vous vivez ça, vous, avec votre fille, votre gendre, votre mari directement exposé?
Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis angoissée, bien sûr. J'ai peur tout le temps. Voilà, je les vois partir le matin, rentrer le soir. À côté de ça, je me dis, mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Si vous voulez, moi, j'ai une admiration. Moi, en tant qu'ancienne infirmière, en plus, je connais le boulot. Je sais ce qu'ils font maintenant. J'ai travaillé en réanimation. Et encore, j'ai rien connu de ce qu'ils vivent en ce moment dans ces genres de services, si vous voulez. Donc, moi, j'ai une admiration sans borne. J'ai même pas de mots pour exprimer ma reconnaissance, mon admiration pour les gens qui font le boulot qu'ils font en ce moment. Moi, quelquefois, je me dis, mais comment j'ai pu, moi, il y a 30 ans, travailler en réa tellement c'était horrible, difficile, c'était dingue. Je me dis quelquefois, mais comment t'as fait? Mais aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui, ça dépasse tout, ça dépasse l'entendement. C'est un truc de dingue.
Cette admiration, donc, elle est partagée par nombre d'entre nous, Rosalba. Je dis cette admiration, elle est partagée par d'autres.
J'imagine.
Mais je voudrais avoir aussi une pensée pour votre fille et son mari ont des enfants?
Alors, ils ont trois petits dont je m'occupe. Donc, moi, je vais tous les matins chez eux. Ils n'habitent pas très loin de chez moi. J'y vais tous les matins. Je rentre tous les soirs. Je m'occupe de ces petits. Mais qui aussi, c'est ce que je disais à votre adorable standardiste que j'ai eu au téléphone. Et j'expliquais qu'eux, ils vivent un petit peu à travers leurs parents cette situation aussi. Si vous voulez, c'est pas comme des gamins dont les parents sont à la maison. On bouge pas de la maison. On est bien au chaud. Mais là, ils les voient partir le matin. Ils les voient rentrer le soir. Ils voient le père qui se déshabille à l'extérieur, par exemple. C'est des trucs comme ça. Et puis, les parents, mine de rien, vous discutez quand même, forcément. Ils savent que leur grand-père à 63 ans par bosser. Donc l'autre jour, ils m'ont dit, mamie, passe-nous le téléphone, on veut appeler papy, il faut qu'il arrête de travailler à son âge, c'est difficile à son âge. Et puis ils sont courants de tout, quoi. Ils me disent, mamie, on veut pas faire de vélo, on peut sortir dans le jardin, on fait pas de vélo. Parce qu'on sait très bien que, tu sais, mamie, si on fait du vélo et qu'on tombe, on arrive à l'hosto avec un coude cassé ou une jambe cassée, on ressort avec le coronavirus. Enfin, ils sont vraiment au courant, au fait.
Bien sûr, et ce sont des éponges,
Alors, moi, j'ai l'impression, j'ai
j'ai pensé l'autre jour au film de Benigni, ça n'a pas de rapport, vous allez me dire. Mais la vie est belle. Parce que moi, j'essaye quand même, à une toute petite mesure,
de, leur,
de minimiser.
Apporter un peu de joie de vivre, bien sûr, parce que les enfants, ils ont besoin de ça, évidemment.
Ils ont besoin de ça. Mais moi, je voulais surtout parler, pas tellement de moi.
Mais vous avez bien fait. Et vous savez, Rosalba, vous pourrez dire ce soir, lorsqu'ils vont rentrer, lorsque votre mari se sera déshabillé à l'extérieur, vous allez tout expliquer. Vous pourrez leur dire merci. Merci de la part d'RTL, merci de la part de tous les auditeurs d'RTL. Je vous le disais, Guy François est avec nous. Il est à Saint-Étienne, anesthésiste en réanimation à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Bonjour Guy François.
Bonjour Monsieur Parizeau. Un petit rectificatif,
allez-y,
si vous permettez.
Allez-y.
Je suis anesthésiste réanimateur de formation et j'en suis fier, mais j'exerce exclusivement au SAMU et au Centre 15, c'est-à-dire que je fais de la régulation médicale au 15 et après des interventions et des transports de patients.
Bah, c'est très important ce que vous voulez nous dire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont, j'allais dire, au bout de la ligne, qui font ce qu'on appelle de la régulation, c'est vraiment le premier maillon, j'allais dire, de la chaîne. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis quelques jours dans la région de Saint-Étienne, dans la Loire ?
Alors, j'ai eu ce matin un entretien avec le responsable de l'unité, le docteur Dessaigne, parce que le hasard fait que, du fait des plannings et du fait que je suis convalescent, ça doit s'entendre un peu, c'est un syndrome grippal qui pourrait bien être Covid positif, même si le test a été négatif. J'ai fait donc un petit appel de synthèse ce matin. On a observé un pic des appels très nombreux samedi dernier, donc il y a 8 jours, avec un plus que triplement des appels avec des suspicions de Covid et puis des manifestations d'affolement et autres. Et on semble revenir vers un apaisement, d'autant plus que tous ces appels ont été déviés vers une salle qui est dédiée à ça pour séparer de l'activité actuelle du SAMU, parce qu'il est bien évident que les gens qui sont victimes d'un infarctus ou d'un accident ne doivent pas être pénalisés,
évidemment,
ne doivent pas subir de perte de chance de ce fait-là. Apparemment, et c'est ce que disait le professeur Carly ce matin, je l'ai entendu, on va vers un apaisement de ces appels téléphoniques, on va vers une organisation qui implique aussi la médecine générale pour réguler tous ces appels en amont avant que les gens ne se déplacent, et l'évolution au niveau du service du SAMU du Centre 15 devient de plus en plus apparemment une activité classique de transport de patients atteints de la maladie, soit au stade de gravité, soit au stade de grande gravité, s'ils sont sous respirateur par exemple.
Merci beaucoup de ces témoignages. À vous aussi, évidemment, les remerciements de tous les auditeurs d'RTL, comme à tout, j'ai envie de dire à toutes les blouses blanches. Daniel nous appelle de Paris, infirmière retraitée. Bonjour Daniel. Est-ce que Daniel est en ligne avec nous ?
Oui, je suis en ligne.
Oui, on vous écoute,
oui,
Daniel,
bonjour,
bienvenue.
Bonjour et merci de me permettre d'apporter mon témoignage pour les blouses blanches. Voilà, je voulais dire que, en dehors de l'admiration que nous avons tous, les Français, pour nos blouses blanches, bien entendu, aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est leur courage, leur engagement, leur endurance physique et morale, qui accompagne en même temps aussi les gens qui vont mourir, les familles qui va falloir informer, et en même temps elles rentrent chez elles, elles ont leur responsabilité de famille, elles ne calculent pas leur temps, leur engagement, leur risque pour leur propre personne.
Il faudra les remercier, hein.
Oui, il
faudra
vraiment les remercier.
À un moment, il faudra les remercier.
Jamais de les entendre, de leur dire combien on reconnaît leur importance.
Et c'est la raison pour laquelle il faut aller à sa fenêtre le soir à 20h pour qu'ils l'entendent. Ils l'entendent dans leur service, chez eux, qu'ils entendent cette France qui leur dit merci. Et merci à vous, Daniel, d'avoir fait le 32-10. On a une courte pause à faire, très très courte. Et puis ensuite, on vous retrouve. On sera avec un médecin généraliste d'Amboise. C'est très intéressant ce qu'il a à nous dire, parce que c'est un médecin qui était un médecin référent en 2016. Au moment du H1N1 et qui est en ce moment chargé de l'impact du coronavirus dans sa région, qui, j'imagine, Amboise doit être la région centre. On va vérifier ça avec lui, à tout de suite sur RTL. Merci pour eux.
RTL, édition spéciale avec Vincent Parizeau.
Merci à eux.
RTL,
édition spéciale avec Vincent Parizeau.
Merci à eux.
C'est compliqué actuellement parce que non seulement c'est du non-stop auprès des malades, mais il y a toute l'organisation, la gestion de crise avec les autorités sanitaires qui nous prend beaucoup de temps. Et que le soir, en rentrant chez soi, nous-mêmes, on se retrouve totalement couverts probablement de ce virus, avec une grosse crainte de transmettre ce virus à nos familles. Donc on a instauré au sein de notre équipe des grandes procédures de décontamination. C'est-à-dire qu'on se change dans un sas, dans nos garages, dans nos caves. On se déshabille totalement sans rien toucher. Puis s'ensuit une douche pour une bonne désinfection et bien sûr malgré tout des distances de sécurité avec nos familles.
Voilà, témoignage de Frédéric d'SOS Médecin, dont vous l'avez compris, la vie est totalement bouleversée, qui ne compte pas ses heures, qui est aujourd'hui un véritable combattant face au virus. Il y en a des milliers en France. C'est ça la réalité et c'est la raison pour laquelle on tenait aujourd'hui pendant cette petite heure à leur dire merci. Et merci aussi à vous, docteur Jean-Michel Lemaitre, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Médecin généraliste à Amboise. Merci aussi, j'imagine, de nous faire profiter de votre expérience, parce que vous avez eu une expérience en région centre en 2006, c'est ça ?
Disons que l'expérience, on a eu en fait trois coups de semonce avec des virus sur ces, je dirais, 20 dernières années. On a eu le SARS-CoV en 2003, la grippe aviaire en 2006 et la pandémie H1N1 en 2009. Et à chaque fois, je veux dire, on était mobilisés, on a eu des formations interprofessionnelles. En gros, le SARS-CoV-2, c'est un microbe qui est connu, c'est un virus. On n'est pas face à un microbe inconnu et donc on sait comment s'en protéger, comment il se propage. Et ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant. Hein. Voilà.
Vous avez un message quand même rassurant parce que sur la propagation, on a des informations, même si on ne connaît pas grand-chose de ce virus. C'est ce que vous voulez nous dire ?
Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a un microbe qui est connu. C'est pas comme le prion. On savait pas ce que c'était avec la vache folle. Là, on a un virus. On sait lequel il est. Enfin, c'est quoi? Il a été identifié par les Chinois. Il a été séquencé. On sait comment ça se propage. Alors, il est certainement un petit peu plus résistant que ce qu'on pensait au départ sur des surfaces. Donc, il faut vraiment être très bien protégé. Je vais rebondir là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se passe. On sait qu'il peut être rarement très méchant. Mais si on ne l'attrape pas, enfin, je veux dire, si on n'y est pas exposé, voilà, c'est très important les mesures barrières.
Et est-ce qu'on est assez clair là-dessus, sur les mesures barrières? Est-ce que le gouvernement est assez ferme? Est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous?
Moi, je trouve que c'est très clair, mais effectivement, ça n'est pas. Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Dans la mesure où vous avez 80% des cas, comme le disaient mes confrères précédemment, présentent un tableau extrêmement bénin, ça veut dire que attraper le Covid-19 en soi, bon, bah, il y a 8 chances sur 10 que tout se passe très très bien. Il reste 2 chances sur 10 d'avoir la nécessité. Enfin, 2 risques sur 10 d'avoir la nécessité de se hospitaliser.
C'est pas rien quand même. C'est pas rien.
C'est pas rien. C'est pour 20%. Ça qu'il faut prendre des mesures. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hein.
Merci beaucoup de votre témoignage.
Je souhaitais en profiter un petit peu pour un appel. Je ne suis pas du tout d'une famille de médecins, moi, mais plutôt d'industriels. Et je voulais faire un appel aux organisations patronales. Suite à ces pandémies, à la pandémie H1N1, etc., on a eu des masques qui ont été distribués dans des tas d'entreprises. Et je trouve qu'il serait incompréhensible, je dirais, que des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux restent dans des cartons, dans des entreprises, alors qu'ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Quoi.
Alors ça commence à se faire, mais évidemment, au compte-goutte, ça commence à se faire, visiblement, des entreprises qui décident de faire don, évidemment, de leur stock de masques. Mais si j'ai bien compris, docteur Lemaitre, vous lancez un appel pour que ce mouvement soit généralisé. En tout cas, merci. Hein, merci à vous. Merci à tous les soignants. On va prendre Fatima en ligne. Je trouve ça très, très, très sympathique parce que Fatima, elle est la sœur de Rachida qui a témoigné tout à l'heure. Bonjour Fatima.
Bonjour monsieur, bonjour à tous.
Ça reste en famille. Parcours. C'est d'entendre votre sœur qui vous a fait réagir.
Mais parce qu'elle m'avait prévenue et puis qu'elle devait parler de mon problème et qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait plein de choses à dire.
Simplement, je vais être claire et concise. Je travaille dans un hôpital de référence du Covid en Seine-et-Marne. Mmh. J'ai pas peur de le dire, hein, c'est à Melun. Mmh. J'ai travaillé pendant plus de...
Quand on dit un hôpital référence, ça veut dire qu'on vous envoie les malades du Covid-19.
Voilà, mmh, exactement. Donc, on se donne les moyens d'avoir tout le matériel nécessaire. On est d'accord.
Et donc, vous l'avez, ce matériel? Vous l'avez?
Eh bien, dans certains services, oui, mais au compte-goutte. Hein, c'est-à-dire que dans un service de réanimation, c'est un médecin qui a les masques FFP2 sous clé et l'agent doit venir demander un masque. Et si c'est justifié, elle doit émarger comme des produits toxiques, comme de la morphine sur un cahier, son nom, son prénom, des fois qu'elle l'emmène chez elle, par exemple.
C'est une procédure. Il faut signer un document en 3 exemplaires pour avoir droit à un masque.
Ouais, voilà. Donc c'est une ineptie totale. Et par ailleurs, moi, je ne travaille plus en réanimation. J'ai changé. Actuellement, je travaille en psychiatrie. Mmh. Et à la dernière nuit que j'ai faite à 20h, quand j'ai pris mon poste, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de masque, tout simple, tout simple. Or, ces patients de psychiatrie, qui sont le plus souvent délaissés, parce que c'est la troisième roue du carrosse, hein, et ce, depuis toujours, ont eu des permissions. Depuis lundi dernier, ils sont en confinement, donc ils n'ont plus le droit de permission et plus le droit de visite. Or, nous, on sort, on rentre, eux sont sortis, il y a 14 jours d'incubation, j'ai téléphoné au cadre faisant fonction de nuit pour me fournir un masque, et elle m'a dit que mon service n'était pas concerné par ce genre de germes, et que elle me ferait un rapport, voilà. Eh voilà la réalité des choses.
Quand vous dites elle vous ferait un rapport, c'est-à-dire que ça veut dire quoi?
C'est-à-dire c'est un rapport sur mon comportement.
C'est-à-dire qu'elle a trouvé que vous étiez un petit peu
excessive, et que du coup, ça sera dans mon dossier professionnel, voilà.
Tout simplement parce que vous avez demandé des masques et que vous travaillez à l'hôpital.
Ouais. Et ça,
dans un hôpital qui est un centre de référence du coronavirus, c'est absolument dingue ce que vous nous expliquez.
Alors là, je connais pas les tenants et aboutissants de la suite de l'affaire, hein. Mais j'ai pas peur, j'assume, j'assume complètement, j'assume.
En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est à vous aussi, parce que même si vous n'êtes pas dans le service directement concerné, vous êtes dans cet hôpital qui est un centre de référence.
On est dans un hôpital, mais ces patients-là ont eu des visites.
Bien sûr.
Ils ont été eux-mêmes, certains patients, en contact avec des personnes de leur entourage positifs au Covid. Donc, depuis lundi, ils sont enfermés, ils n'ont pas le droit de sortir. En attendant, ils sont sortis. En attendant, nous, et on rentre. Et puis, on va dans d'autres services pour chercher du matériel. Donc, on est dans un hôpital. Et l'hôpital, enfin, le Covid, il ne s'arrête pas à une frontière, à une porte.
Et évidemment. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit merci. On vous félicite pour le courage dont vous devez faire preuve chaque jour en allant à l'hôpital. Et puis, merci de votre témoignage. Surtout, en espérant que les choses bougent, notamment dans ce domaine des masques. Édouard Philippe l'a dit, hein, il y a plusieurs types de prototypes de masques qui sont en fabrication. Les choses devraient bouger très rapidement. Le directeur général de la santé, d'ailleurs, souligne que la France avait un stock stratégique de 110 millions de masques, mais évidemment, il en faudra beaucoup plus. Merci beaucoup, Fatima, de votre appel. Je voudrais qu'on prenne Cécile en ligne. Et bravo et merci encore, hein, Fatima. On va prendre Cécile en ligne, qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour, Cécile.
Bonjour Pascal.
Infirmière, alors c'est Vincent, mais c'est un détail. Infirmière à domicile, c'est pas grave du tout. Dites-moi.
Alors moi, je vais vous parler de ma semaine où j'ai vraiment eu l'impression que j'étais une extraterrestre, où j'étais en décalage total par rapport à ce qui se passait autour de moi, et c'était assez compliqué à vivre. En fait, comme vous venez de le dire, j'habite La Rochelle, une ville fort sympathique, n'est-ce pas? Et donc, moi, je partais travailler, blouse, masque, faisant attention à tout. Et autour de moi, je voyais des gens faire leur jogging, des gens se promener, front de mer, etc. Donc là, ça a été assez compliqué. Je trouvais que j'étais vraiment...
Vous avez pris ça finalement comme une agression, parce que vous êtes dit, mais...
Oui, et alors, je me suis arrêtée deux fois dans une boulangerie. J'avais faim en milieu de matinée. Donc, habillée, entre guillemets, en infirmière, avec ce que je peux avoir. On a une dotation, les infirmières libérales, de 18 masques par semaine. Je crie aussi, enfin, je veux parler aussi des aides-soignantes qui n'ont pas de masques, les auxiliaires de vie qui n'ont pas de masques. qui vont aussi chez les personnes âgées. Ça, je vous le développerai après. Je
reviens très vite, sur ma très boulangerie. Vite, parce qu'on a beaucoup de monde.
J'arrive à la boulangerie, il y avait la queue. Personne ne m'a fait passer. Personne ne m'a dit, allez-y, passez. On parle de solidarité, on parle d'applaudissements. Je trouve ça très bien d'applaudir. Mais ce que je voudrais, c'est que dans leur quotidien, ils appliquent aussi, ils nous aident dans le fait de faire attention. Parce que faire attention à eux, c'est faire attention au développement du Covid.
Bien évidemment.
Et à la propagation du Covid.
Bien évidemment.
Eh bien oui, mais c'est bien beau d'applaudir, mais ce que je voudrais voir au quotidien, c'est voir les gens faire attention. Quand il y a des anciens qui arrivent, les anciens, il faut les faire passer vite, il faut les faire passer devant. On a l'impression que, quand vous voyez les supermarchés dévalisés, honnêtement, pensez aux personnes âgées, c'est eux qui sont fragiles, c'est eux qu'on doit...
Aux personnes âgées et aux personnels soignants comme vous, Cécile.
Et moi, quand j'arrive chez un patient, je ne sais pas s'il a le Covid ou pas. Les infirmières à domicile, on arrive, on a rien comme matériel. Vous parlez de masques, il n'y a rien pour l'instant, mince. On a, je vous dis, 18 masques par semaine.
Vous arrivez à respecter les mesures barrières avec les patients? C'est très compliqué quand on doit soigner quelqu'un.
Mais c'est très compliqué. Et quand on est appelé pour de la température, on arrive à domicile. Je ne sais pas si la personne a le Covid
bien
ou pas.
Bien évidemment, Cécile. Je voudrais me faire le porte-parole encore une fois de tous ceux qui nous appellent pour vous dire encore une fois merci, merci pour ce que vous faites, merci pour les risques que vous prenez, merci pour votre courage, tout simplement. Je pense que Philippe va nous dire ça. Philippe, il est à Marseille. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous voulez vous aussi remercier les soignants?
Oui, absolument. Je suis moi-même quelqu'un à risque puisque cardiaque et titulaire, si je puis dire, de deux maladies auto-immunes. Donc mon quotidien est assez compliqué. Et je veux remercier absolument toutes les équipes soignantes pour leurs engagements et leur dévouement face à cette pandémie. Mais au-delà de les remercier, je voudrais surtout pousser un coup de gueule contre le gouvernement.
Très vite, mais là, franchement, très vite. Oui.
Très, très vite. Vous allez voir, c'est un rapport. Le gouvernement nous dit qu'on est en état de guerre.
Oui.
Okay. Dans ce cas-là, les infirmiers sont de la chair à canon puisqu'on ne leur donne pas les moyens de se protéger. Alors, pourquoi le gouvernement, puisqu'on est en temps de guerre et qu'ils nous l'ont suriné, n'impose pas, ne réquisitionne pas des usines pour fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour fournir tout le monde?
Eh bien voilà, le message est lancé. Vous dites merci, merci aux soignants, mais il y a aussi ce message, si on est en guerre, il faut faire attention à nos soldats. Eh bien tiens, Fanny, c'est un soldat. Fanny, qui va clôturer cette émission, qui nous appelle de Rennes. Bonjour Fanny.
Oui, bonjour Vincent. Et merci, bonjour à tous les auditeurs. Merci de me donner la parole.
Vous êtes infirmière, vous aussi?
Oui, je suis infirmière au CHU de Rennes. Et je vous ai appelé pour remercier, je crois, au nom de tous les soignants, de tout, que ce soit paramédicaux, à domicile, enfin toutes les personnes qui interviennent dans le soin, dans l'accompagnement auprès de nos concitoyens. Je voulais remercier toutes ces personnes le soir qui nous applaudissent, qui nous donnent la force, s'il en est besoin encore et toujours, de continuer.
Du courage pour aller au combat?
Oui, et en effet, mais notre profession soignante, toutes personnes confondues, c'est le cœur de notre profession. C'est normal pour nous d'être là. C'est notre métier. C'est normal. Mais par contre, je vous remercie tous. Mais je voudrais vous donner un rendez-vous, s'il vous plaît. Lorsque cette épidémie va baisser pavillon, parce que grâce à tout le monde, puisque vous allez tous observer tout ce qu'on vous demande, restez chez vous, s'il vous plaît. Aidez-nous comme ça. Mais après, il faut que vous soyez encore avec nous parce que cette épidémie intervient dans un moment où déjà nous étions complètement dans des situations extrêmement précaires, sans moyens, sans trop de personnel.
Et ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au-delà des applaudissements, des récompenses, de la reconnaissance, vous aurez aussi besoin du soutien des Français, c'est ça ce que vous voulez nous dire, Fanny, pour défendre l'hôpital public auquel les Français sont très attachés. Je Je vous dis merci, Fanny. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci à tous les personnels soignants. On aura encore, j'imagine, l'occasion de leur témoigner de toute notre gratitude. On va vous laisser. Je vous retrouve à 18h ce soir pour RTL Soir. Tout de suite, c'est confidentiel avec Jean-Alphonse Richard consacré à Tina Turner. Et n'oubliez pas, 20h, tous à la fenêtre. On applaudit, on chante. Merci pour eux.
RTL, édition spéciale. Merci à eux. Bonne nouvelle.